mots, pour ce temps de message et pour savoir, oui, qui peut intercéder pour nous.
Qui peut intercéder pour nous ? À travers le sketch précédent, on voit ce besoin, en fait, d'avoir quelqu'un qui intercède pour nous. Qui intercède pour nous vis-à-vis de nos péchés, mais qui intercède aussi pour nous dans nos difficultés. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a beaucoup ressenti ce besoin d'un intercesseur, quelqu'un qui intercède, d'un défenseur, quelqu'un qui défend. Il s'agit du personnage de Job, dans le livre de Job. Et aujourd'hui, je vais brosser un rapide résumé de ce livre, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 37. Pour ceux qui connaissent le livre de Job, vous allez peut-être me dire que je suis un peu fou. C'est pas effectivement le livre le plus facile à comprendre et c'est pas non plus le livre qu'on aime le plus, en général. À titre personnel, et je le témoignerai au fur et à mesure du prêche, c'était le livre que je détestais le plus pendant une période de ma vie. Aujourd'hui, c'est mon livre préféré, et je voulais juste aussi vous raconter comment le Seigneur avait changé mon cœur là-dessus. Donc, il y a plusieurs objectifs aujourd'hui. D'abord, présenter le livre de Job, et comment le comprendre, comment le lire. Et le livre de Job, il parle du problème de la souffrance. Et on va voir... je ne vais pas répondre au problème de la souffrance, désolé, mais je vais au moins donner 2-3 pistes, donner 2-3 idées là-dessus. Et ensuite, on va parler de ce que j'ai annoncé, du coup, la nécessité d'un intercesseur. Et on va comprendre comment Dieu a répondu à nos besoins, et même au-delà. Tu peux avancer. Et encore une deuxième fois. Première partie, j'ai appelé « Injustice de Dieu ». Ce titre est un peu provocateur, c'est fait exprès. Je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent en tête. Alors, ça peut être des formulations de questions du type « Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a la guerre ?» Ça peut aussi être « Pourquoi moi, Seigneur, c'est injuste? Tu n'as pas le droit? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Et je ne prétends pas répondre à ces questions, hein, ce prêche, mais juste témoigner de moments semblables que j'ai eus et où j'aurais tellement aimé qu'on me réponde. Alors voyons un peu ce que peut nous enseigner Job là-dessus. Alors au niveau de contexte de Job, géographique, il n'y a pas de précision, ou quelques précisions, mais qui sont, on ne sait pas les pays. Au niveau, on sait juste qu'on n'est pas en Israël, c'est la seule information qu'on a. Au niveau temporel, on ne sait pas exactement quand c'est, a priori, c'est peut-être avant Abraham, c'est pas très clair. L'auteur, on ne sait pas non plus. Alors, on a quand même un personnage, c'est le personnage de Job, qui est un chef de famille, un patriarche, et qui est un homme droit devant l'Éternel. Et alors, juste avant de continuer, malgré tous les manques, toutes les insuffisances, je veux dire que ce personnage est un personnage réel. Il est cité à d'autres passages dans la Bible, dans Ézéchiel 14:14 et dans Jacques 5:11. Donc c'est une vraie personne, c'est pas juste une fable, le livre de Job. Alors, donc maintenant on va résumer un peu les premiers chapitres, les deux premiers chapitres. Au tout début, on nous parle de Job, et Job c'est un homme qui est droit. C'est un homme qui est droit devant le Seigneur, et Dieu est même fier de Job. Alors on sait qu'il est droit parce qu'il y a des moments où il a des enfants et ses enfants font la fête. Et donc dans le doute, le lendemain matin, il fait un sacrifice au cas où ils aient fait des bêtises pendant la nuit. Ouais. Mais ça donne un ordre d'idée de à quel point Job veut être pur et en règle devant Dieu. Et du coup, là on arrive devant une scène étrange qui ressemble un peu au sketch juste avant. Une scène où on est au ciel et il y a Dieu qui parle, qui dit qu'il est fier de Job. Et là, il y a, alors, il n'y avait pas dans le sketch précédent, mais il y a le procurateur, donc celui qui attaque, qui est là, en hébreu l'accusateur, on le traduit par le diable, qui est là, et qui dit, ouais, mais Job, il est juste intéressé. Tout se passe bien pour lui, donc c'est juste pour ça qu'il t'aime bien. Dès que ça se passe mal, ça ne va pas bien se passer. Et là, en fait, ce qui est assez incompréhensible, c'est que Dieu, il aurait pu laisser passer cette remarque. Dire. Et en fait, il va dire, il va laisser le diable agir. Il va le laisser agir. Et du coup, vas-y encore. Aussitôt, Job, il perd sa famille, il perd ses biens, il perd sa richesse et il perd sa santé. Et c'est assez incompréhensible, en fait. On ne comprend pas pourquoi Dieu laisse faire ça. Et même sa femme dit à Job de maudire Dieu et ensuite de mourir. Et Job, il refuse. Et donc, on arrive à la fin du chapitre 2, où Job est rongé par la maladie. Il y a 3 amis qui le regardent se gratter avec un tesson de bouteille, il est assis sur la cendre. Et on se dit, en fait, mais Job, il va répondre à cette question. Enfin, le livre va répondre à la question de pourquoi Dieu a permis. Désolé pour tous les frustrés, j'en ai fait partie. Non, il ne répond pas à cette question. Ça va être cause d'une grande frustration chez le lecteur, chez Job. Et à ce moment-là, en fait, il y a trois amis qui arrivent, bon, qui s'appellent Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et il y a une série de dialogues. Les dialogues, ça marche comme ça, c'est d'abord Job parle, ensuite l'ami 1, Job, ami 2, Job, ami 3, Job, et on recommence. Il y a trois fois ce cycle-là. Et les deux questions qui se posent au cours de ces dialogues, c'est, première question, est-ce que Dieu est juste ? Et deuxième question, bon, peut-être qu'il est juste, mais alors est-ce qu'il dirige le monde, selon la justice ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans le livre de Job, c'est que derrière le raisonnement de chaque personne, il y a un principe général que j'ai formulé ainsi. Dieu agit selon ce que moi je fais. Dieu agit en ma faveur envers ce que moi je fais. Donc par exemple, si moi je me comporte bien, bah du coup Dieu va me bénir. Si je me comporte mal, Dieu va me maudire. Et c'est un peu une idée, c'est l'idée qui est derrière le livre de Job, en tout cas dans la tête des personnes. Les personnes pensent ça, je vais un peu l'argumenter juste après. Et je pense que c'est un raisonnement en fait qu'on est tenté d'avoir assez souvent. Alors, par exemple, pour Job, à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais dans son raisonnement, il se dit d'abord « je suis innocent ». Et on sait qu'il est innocent. Je veux dire, la scène du début montre que Job est effectivement innocent de tout ce qui se passe. Son raisonnement ensuite, c'est « du coup, si je suis innocent, ma souffrance, ça ne vient pas de la justice divine ». Et on sait aussi que c'est vrai, ce n'est pas une punition. Mais sa conclusion, c'est « soit Dieu ne dirige pas le monde selon la justice, soit Dieu n'est pas juste ». Et c'est un peu ça qui transparaît à travers ces dialogues. Et là, il y a un problème dans le raisonnement. Mais ça vient de cette idée derrière que Dieu doit agir en fonction de ce qu'on fait. Maintenant, le raisonnement des amis, eux, ils partent du principe inverse, Dieu est juste. Deuxième principe, Dieu dirige le monde selon la justice. Du coup, Job a péché. Et là, on sait que c'est faux aussi. Et en fait, là, peut-être que, formulé comme ça, vous vous rendez compte à quel point le raisonnement est faux. En tout cas, j'espère. Mais je pense qu'en fait, on est trop souvent tenté par ce raisonnement. Voilà, on peut se dire, voilà, quand il y a un mur qui nous arrive, on est souvent tenté de dire mais j'ai rien fait de mal, ou de dire mais pourquoi ça m'arrive, j'ai pas fait de bêtises, ou alors à l'inverse, ah oui mais c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai fait une bêtise à tel moment, voilà, j'aurais dû mieux me comporter avant, ça ne se serait jamais passé. Mais la vérité c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et moi-même, en fait, j'ai eu ce raisonnement, et je ne vous jette pas la pierre. Alors, je vous ai déjà raconté à plusieurs, je ne sais pas si tout le monde était là, mais j'ai eu deux années de grande galère. Galère à mon niveau, hein, je veux dire. En tout cas, pour moi, c'était de la galère. Essentiellement, quand je suis arrivé à Paris, c'était en 2010, je sortais, voilà, j'avais 19 ans. J'avais toujours été premier de classe, jusque-là. Et là, je suis arrivé dans une école à Paris et j'étais dernier de classe, en bossant plus que tous mes camarades et en bossant plus que ce que je n'avais jamais fait. Et en fait, pour moi, c'était un grand choc, parce que c'était le premier vrai échec de ma vie. C'était aussi surtout dur parce que en fait, tous mes amis d'avant m'appelaient le premier de classe. Et du coup, quand je les voyais, ils me disaient « Mais toi, de toute façon, ça doit bien se passer, de toute façon, t'es toujours premier de classe. » Et j'ai vraiment eu un gros problème dans mon identité. Et en fait, je raisonnais un peu comme Job dans ma tête. Alors, j'ai passé deux années de ma vie, essentiellement, à pleurer chaque soir. Je me disais que j'avais pas le droit de m'énerver contre Dieu, donc je m'énervais contre ma mère au téléphone. Et j'ai fait... désolé Nathalie, c'est souvent les mères qui prennent. Et j'ai lu deux ou trois fois Job dans cette période, très mauvaise idée. Je pense que je voulais trouver une réponse à la question de la souffrance en lisant Job. Et il n'y avait pas la réponse, que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'étais d'autant plus énervé. Et j'avais d'autant plus l'impression que Dieu était aux abonnés absents. Mais malgré tout, en fait, j'étais converti à ce moment-là. Et du coup, je m'accrochais au livre, j'essayais de trouver une réponse. Et j'espérais, et en fait, je ne trouvais pas de réponse. Et comme Job, il ne me semblait pas avoir particulièrement péché pour mériter cela. Et je savais aussi, par la Bible, que le Dieu de la Bible était juste. Du coup, ma conclusion... reviens là. Reste là. Voilà. J'en étais à Dieu est juste, Dieu gère le monde selon la justice. Du coup, en fait, ma conclusion, moi, j'allais un peu plus loin, c'est Dieu n'existe pas. J'en étais arrivé là, j'étais pas. Dieu ne doit pas être juste, j'étais convaincu que Dieu était juste, mais j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de problème particulier, donc je me suis dit Dieu n'existe pas, tout simplement. Et pour moi, c'était vraiment dur parce que je me disais que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de raison de vivre, clairement. Et voilà, bon, j'ai des pensées très noires, je ne vais pas en parler, mais c'était vraiment une période difficile. Et j'avais l'impression, alors soit c'était Dieu n'existe pas, et ça je ne voulais pas le croire, soit c'était, bon, Dieu peut peut-être exister, mais c'est une sorte de père fouettard qui punit. Voilà, moi j'avais beaucoup voulu venir à Paris dans cette école précisément, et j'avais l'impression qu'il me disait, bah ok, je t'accorde ce que tu veux, mais tu vas voir que c'était pas la bonne idée et que tes plans sont pas mes plans. Donc j'avais cette image de père fouettard. Et en fait, c'est pas du tout qui est Dieu, on va en parler après. Et Job ne comprend pas non plus dans notre texte. Sa seule conclusion logique, en fait, à laquelle il arrive, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le sketch, c'est que pour plaider contre un Dieu injuste, il faut quelqu'un qui plaide sa cause, il faut quelqu'un qui le défende. Et donc, on voit cette recherche à travers tout le livre. Par exemple, dans Job 9, 19, recourir à la force, Dieu est tout-puissant. À la justice, mais qui me fera comparaître ? C'est vrai qu'il peut faire comparaître devant Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, car Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réplique, ou pour que nous allions ensemble au tribunal. Et il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous. Je cite aussi deux autres passages, 19-25, c'est ce que Jérémie vous a lu tout à l'heure. Job, il a besoin de quelqu'un qui puisse le départager avec Dieu. Mais dans un certain sens, il comprend aussi que seul Dieu peut faire ça, pour le départager, que ça peut pas être un homme qui le fait. On va passer à la deuxième partie. Injustice de Dieu, oui, mais en notre faveur. Le quatrième ami arrive, il s'appelle Élihu. Et il prétend un peu être cet intercesseur que cherchait Job. Et dans un sens, son raisonnement va plus loin que les précédents. Comme les autres, il dit « Dieu est juste », ce qui est vrai. Il dit « Dieu gère le monde selon la justice », ce qui est vrai aussi. Mais sa conclusion est un peu plus complexe. On va l'étudier. D'abord, il fait remarquer à Job que peut-être qu'il n'a pas péché pour arriver là, mais en tout cas, son comportement actuellement vis-à-vis Dieu n'est pas juste. Et qu'en ce moment, il est en train de pécher. Et ensuite, il continue, donc on va lire dans Job 33, à partir du verset 16. Dieu se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance, qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Alors, c'est pas très réjouissant, mais on voit que le raisonnement d'Élihu, finalement, encore, c'est la souffrance, ça peut être un moyen pour Dieu, finalement, de nous forger, et ça peut être un avertissement. Alors, je vais tempérer tout ce que je dis un peu après, mais c'est effectivement une idée qui transparaît aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 12, on va lire, un texte que j'aime beaucoup. « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que son père ne corrige pas ? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Mais certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. » Et Dieu, c'est pas un père fouettard. C'est pas cette image que j'avais. C'est pas, il nous punit juste pour nous punir. Dieu, il nous aime. Et Dieu, c'est un père aimant, prend soin de nous. Vous allez me dire, soit, ok, bon, Dieu, il veut nous former, il veut nous apprendre, mais concrètement, qu'est-ce que ça me fait quand je suis en pleine crise ? Qu'est-ce que ça fait quand je suis dans la souffrance ? Ok, il y a peut-être un objectif plus loin, ça peut déjà me faire du bien. Mais c'est pas forcément un secours concret dans l'épreuve. On va continuer la lecture de Job 33. De la fosse, l'homme s'approche et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de Dieu, un ange intercesseur de Dieu, un parmi les milliers pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu, délivre-le du gouffre, qu'il n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. Alors, sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile et il revient au jour de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur. Il se présente à lui avec des cris de joie, car Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Il se met à chanter et devant tout le monde, il dit, j'avais péché et enfreint la justice, et je n'ai pas subi ce que je méritais. Car Dieu a délivré mon être de la fosse et il a maintenu ma vie dans la lumière. Vois, Dieu fait tout cela deux fois, trois fois pour l'homme, pour le détourner de la tombe et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Si on a quelqu'un, donc là en l'occurrence, il parle d'ange intercesseur qui demande à Dieu de nous délivrer, on est libéré. Et ce passage, il montre, par exemple, Dieu lui rend sa faveur, il montre que Dieu le fait volontiers. Dieu fait tout cela deux fois, trois fois, Dieu il est capable de le refaire. Même si on retombe, Dieu veut nous relever. Son but, c'est pas de nous condamner, mais de nous conduire dans le sentier de la vie. Et donc, un tel ange intercesseur, pour l'instant j'utilise ce terme, permet donc à ce que l'homme reprenne contact avec Dieu, qu'il puisse se présenter devant lui. Que Dieu le, je cite, reconnaisse à nouveau comme juste. C'est incroyable, parce que l'homme, il se rend bien compte qu'il a péché, quand même dans l'histoire. Mais l'homme est reconnu à nouveau par Dieu juste. Et en fait, bon, un tel intercesseur qui plaide pour nous devant Dieu le Père, vous l'avez sans doute compris, les chants en ont parlé, c'est pas seulement un ange, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ en personne, qui plaide pour nous sauver. Dieu, il a envoyé, non pas un ange, mais a envoyé son Fils pour porter nos péchés. Dieu, Jésus-Christ qui était juste, il a été fait injuste pour nous, afin de nous pardonner. Alors, vous comprenez peut-être le titre de ma partie, est-ce que Dieu est juste envers nous? En certain sens, il n'est pas juste parce qu'il ne nous traite pas selon notre injustice. Dieu ne nous traite pas selon notre injustice. Mais en fait, il est quand même juste parce qu'il a, par la mort de Jésus, il accomplit la justice. En fait, Jésus, il est plus grand que cet ange intercesseur dont parle Élie. Bon, c'est pas un ange, mais c'est Dieu lui-même qui plaide pour nous. C'est Dieu lui-même qui vient plaider pour nous. On voit dans la Bible que nul ange ne peut accomplir ce que Élie a entrepris ici, c'est-à-dire nous rendre la justice. Christ est notre seul intercesseur. En 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, intercesseur, défenseur, entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ, homme. Et ce que montre en plus ce dernier verset, Jésus-Christ, homme, c'est que, un truc encore plus important pour nous, c'est que Jésus n'est pas que Dieu, il est aussi 100% Dieu, mais aussi 100% homme, et il a vécu nos souffrances. Et il est capable de comprendre qu'est-ce qu'on subit. Lui qui a été juste, qui a été fait injuste pour nous, lui qui a été trahi par ses amis, lui qui a été mis à la mort alors qu'il n'avait rien commis de mal, il a souffert la croix à cause de nos péchés. Et dans Hébreux 4, on lit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, je peux refaire un intercesseur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et oui, on est pécheurs et naturellement, on est éloigné de Dieu. On souffre dans ce monde des conséquences globales du péché, et pas juste les péchés que j'ai faits, mais globalement le péché de tout le monde. Mais Dieu, il ne veut pas nous laisser nous enliser loin de lui. Il ne nous a pas laissés seuls dans nos difficultés. Il a envoyé, pour satisfaire sa justice, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a été fait notre justice. Par rapport à la souffrance, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, a lui-même connu la souffrance dans les situations dures, et il peut compatir à toutes nos souffrances. Alors, oui, je ne vous donne pas une recette miracle quand on est dans la souffrance, je ne vous dis pas quelque chose d'automatique, mais quand on est dans un moment difficile et qu'on parle à Dieu, qu'on lui dit « je souffre, je suis dans un moment difficile », Dieu, il répond « je sais ». Je sais, je comprends. Voilà, peut-être que ça vous semble une jolie histoire comme ça, je vais vous raconter une autre jolie histoire, vous vous en souvenez peut-être, Jean-Marc l'avait dit il y a un certain temps. Tu peux passer ? Ouais. C'est un homme qui rêvait, bon tu me diras Jean-Marc, c'est un homme qui rêvait et qui marchait sur la plage avec Christ à ses côtés. Et du coup, bah, il marchait côte à côte, et il regardait derrière lui et voyait du coup les traces de pas dans le sable. Donc deux traces de pas de côte à côte. Et il comprend qu'en fait, bon, dans son rêve, plus ou moins, chaque trace de pas correspond à une journée de sa vie. Et il voit que dans les journées les plus dures de sa vie, il y a une seule trace de pas. Et du coup, il se tourne vers Christ et lui demande « Mais où est-ce que tu étais dans ces moments-là? Tu ne m'avais pas dit que tu serais toujours avec moi? Pourquoi tu m'as laissé tout seul dans ces moments-là » Et Jésus, ce qu'il répond, c'est « Dans ces moments-là, je te portais. » Alors, ok, c'est une belle histoire. Je ne sais même pas si c'est un vrai rêve de quelqu'un, mais je trouve l'anecdote en tout cas très intéressante. Et Et moi, en tout cas, je peux témoigner que dans mes 2 années de galère, je me rends compte aujourd'hui que c'était Dieu qui me portait. Voilà, j'ai eu cette grosse dépression. Et le fait finalement que je ne cède pas aux pensées de mort que j'avais dans ma tête, c'était aussi que je savais, c'est finalement Dieu qui m'a soutenu. Alors à l'époque, j'étais incapable de reconnaître ça. D'ailleurs, certains amis qui me l'avaient dit, je leur avais répondu un ouais, mon œil. Mais en fait, dans les difficultés, acceptons de nous décharger sur Dieu. Prions dans les difficultés, demandons à Dieu de nous aider. Et il n'attend que notre permission pour nous aider. Alors, l'aide, c'est pas forcément de nous aider à sortir tout de suite de difficultés. C'est pas forcément ça, l'aide dont je parle. Mais c'est au moins de nous assurer de son assistance, de nous assurer qu'il est là à côté de nous. Alors, dernière partie, Dieu au banc des accusés. Alors, là, je vais essayer de raisonner encore un peu au-dessus. Et réfléchir un peu à ce qui se passe dans ce livre de Job. Et la première chose qu'on note, c'est que Job, en l'occurrence, mais beaucoup, quand on est attaqué, on va même penser à dire que c'est Dieu qui nous a attaqués, que c'est Dieu qui nous frappe. Et là, on voit dans ce livre que, en fait, c'est l'œuvre du diable, de l'accusateur, qui est là. Alors, je vous ai déjà prêché 2 fois sur le combat spirituel. C'est une part importante de notre vie. Alors, je ne veux pas voir non plus derrière chaque désagrément de notre vie nécessairement une attaque du diable. Mais quand les circonstances me font m'énerver contre Dieu, là je pense qu'on est en train de faire le jeu du diable, d'un certain côté. Parce que le diable, il ne veut qu'une chose, c'est nous séparer de Dieu. Et vous vous souvenez de cette idée, de la grande idée du livre, qui est « si j'agis bien, Dieu va me bénir, si j'agis mal, Dieu va me maudire ». En fait, derrière cette idée, il y a une idée qui est un peu plus complexe, qui est « je peux comprendre Dieu ». Je peux comprendre comment Dieu fonctionne. Je peux savoir que si Dieu fonctionne, si je fais ça, alors Dieu va répondre comme ça. Alors, à un certain sens, c'est on est en train, moi je suis un scientifique, on est en train d'observer à la loupe Dieu et de dire bon, bah voilà, il réfléchit comme ça. Et Élieu, d'ailleurs, lui-même, avant le passage que je vous ai lu tout à l'heure, il dit en cela, tu n'as pas raison, laisse-moi te le dire, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi ? Parce que tu lui fais un procès. Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. On ne peut pas comprendre ce que fait Dieu, parce que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Et je confesse que moi, en tout cas, j'ai souvent cette tendance à essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Est-ce que voilà, ça ressemble à Dieu ? Bon, ça ne ressemble pas à Dieu. Et en fait, j'essaye de mettre Dieu dans un cadre, dans une boîte. Et je me dis, bon, voilà, une fois que j'aurai réussi à bien définir le cadre par des expériences, ensuite, je sais comment Dieu fonctionne et donc je pourrai appliquer ma petite recette. Bon, je caricature évidemment, mais je pense que je suis pas le seul à faire ça. Et ce serait beaucoup mieux en fait d'avoir un Dieu qu'on peut comprendre, c'est rassurant dans un certain sens. Mais Dieu, il dépasse nos cadres, il traite tout plafond qu'on essaye de lui mettre. Et il nous invite aussi à voir qu'il nous dépasse. Par exemple, moi dans ma douleur, ma boîte dans laquelle je m'étais dit qu'il me faisait une contradiction, c'était si Dieu est juste, alors tout se passera bien pour moi dans ma vie. Ça, c'était ma boîte dans laquelle j'avais laissé Dieu. Et en fait, tout se passe bien, dans un sens oui, mais pas dans le sens où moi je veux. Et là, je vais vous donner une image, je ne sais pas si vous connaissez les Matryoshka, les petites poupées russes. Alors, j'ai pas réussi, j'ai eu cette idée il y a 2 jours, du coup, j'ai pas eu le temps d'en acheter une. Pourquoi les Matryoshka ? J'ai l'impression, en tout cas moi, dans ma façon de vivre, que j'essaye de mettre des cadres à Dieu. Donc je le mets dans la plus petite poupée. Et à un moment, je me rends compte qu'en fait, non, Dieu dépasse cette poupée. Donc j'accepte d'ouvrir, mais il y a une autre poupée derrière. Donc il est encore enfermé. Et Dieu, il demande de sortir des cadres dans lesquels on le met. Parce que Dieu, il nous dépasse là-dessus. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Voilà. Et du coup, voilà, je pense, un des objectifs, en tout cas, moi, que je me fixe depuis quelques temps, c'est de réussir à le sortir de toutes les poupées. Bon. C'est un travail, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à gratter. Mais progressivement, il prend de la place, et pour que moi aussi, je diminue, et que j'en prenne moins dans mes raisonnements. Et je pense qu'aussi, un des problèmes qu'on a avec ça, c'est de ne pas réaliser à quel point Dieu est saint, et Dieu est au-dessus de nous. Et le problème qui est là, je pense, c'est qu'on ne réalise pas aussi la gravité du péché. On ne réalise pas à quel point le péché est grave. Et pour finir, je vais vous livrer une réflexion de C.S. Lewis, que je vais un tout petit peu adapter, sur cette question du péché. Et il dit qu'un des plus gros soucis aujourd'hui, quand on présente qui est Jésus, quand on explique Jésus, quand on comprend qui est Jésus, c'est que nous-mêmes ou en face de nous, il va y avoir une absence quasi totale de conviction de péché. Au moment de l'Église primitive, donc dans les premiers siècles, les prédicateurs, ils pouvaient s'attendre en face d'eux à avoir des personnes, qu'ils soient juifs, prosélytes, païens, qui aient un sentiment de culpabilité. En effet, chez les juifs, la notion de culpabilité était bien marquée, mais même chez les païens, il y avait une notion de religion à mystère ou d'épicurisme qui se voulait, en certaine sorte, apporter la paix aux consciences. Donc il y avait cette notion de non-tranquillité d'esprit. Et aussi, le message chrétien, il était accueilli un peu partout comme l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il annonçait la guérison à ceux qui se savaient malades. Mais nous, en revanche, on doit d'abord se convaincre du diagnostic que l'on refuse d'accepter avant de pouvoir nous attendre à ce qu'on réagisse à l'offre du remède. Dans l'Antiquité, du coup, en un sens, l'homme il s'approchait de Dieu, ou des dieux, ça dépend, mais comme un accusé se présente devant son juge, c'est ce qu'on a joué tout à l'heure. Mais à notre époque, les rôles sont inversés. C'est l'homme qui juge et Dieu qui est au banc des accusés. Heureusement, bon, vous allez me rassurer, l'homme c'est un juge clément. Voilà, si Dieu a quelque chose à dire pour sa défense quand on l'accuse d'être responsable de la guerre, de la maladie, on veut bien l'écouter. On accepte qu'il parle. Et puis, peut-être même qu'on pourra l'acquitter. Mais, bon, c'est bien sûr ironique. Mais la chose significative, en tout cas, c'est de voir que l'homme occupe le siège de juge et Dieu est au banc des accusés. Et je pense que c'est vraiment cette notion. On a perdu le sens du péché aujourd'hui. Alors, je vais livrer encore une autre réflexion de C.S. Lewis, que je trouve ultra intéressante, qui dit qu'aujourd'hui, quand on pense au péché, quand on parle de péché, en général, tout de suite, la pensée, c'est le péché sexuel. Et c'est la réflexion, c'est que la contraception, en fait, a entraîné un changement radical dans la façon de percevoir ce péché. Parce que avant, quand le péché risquait de ruiner la vie de la jeune fille, ben, on se rendait compte qu'il y avait un problème. Maintenant, dans un certain sens, on s'en rend plus compte que ce péché-là aussi est un problème. Après, il n'y a pas besoin d'aller du côté des péchés sexuels. Hein. Au niveau jalousie, au niveau orgueil, on trouve largement de quoi trouver des péchés dans nos vies. Je peux être coupable là aussi. Donc, on va faire un bilan de tout ce qu'on a vu. D'abord, un premier bilan sur la question de la souffrance. La souffrance, elle nous apprend à nous confier en Dieu et à nous appuyer. Deuxième point, Dieu, il connaît la souffrance. Il l'a vécue. Et troisième point, Dieu est toujours disponible pour nous aider. Et en fait, il l'a déjà fait. Et il attend juste qu'on lui donne l'autorisation de continuer à agir. Deuxième bilan, plus sur le jugement de Dieu. Il est faux que Dieu agit envers nous en fonction de notre comportement. C'est l'idée de ce livre qui est fausse. Plus globalement, on ne peut pas comprendre comment Dieu agit. Parce qu'il faut arrêter de le limiter. Arrêter d'essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Et dans un certain sens, voilà, ayons conscience que moi je suis homme et lui est Dieu. Bilan de tout ça, je suis pécheur, je traverse des souffrances et Dieu veut m'aider à travers ces deux problèmes. Dieu m'a pardonné et dans sa grâce, Dieu m'a justifié si on accepte ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à relire le livre de Job avec cette perspective, redécouvrir un livre vraiment merveilleux. Et on vous invite à prier, je vais conclure. Oui Seigneur, je te bénis pour qui tu es Seigneur, je te bénis pour ce Dieu grand, ce Dieu majestueux que tu es. Seigneur, je te remercie parce que alors qu'on était dans la difficulté, alors qu'on était dans la galère, tu ne nous as pas laissés tout seuls. Seigneur, mais tu as envoyé ton fils pour mourir pour nous. Et Seigneur, tu vois, oui on est souvent tenté dans les souffrances, dans les temps difficiles, de se demander pourquoi. Pourquoi Seigneur ça se passe comme ça. Et Seigneur, je te loue parce qu'en fait, Seigneur, tu es avec nous dans ces difficultés. Voilà, je veux proclamer, Seigneur, que tu nous aides, même si on ne s'en rend pas compte, que tu es avec nous, même si on en doute et même si parfois on est énervé contre toi. Seigneur, tu nous portes, et Seigneur, tu nous soutiens et tu nous permets d'avancer, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui est dans les moments difficiles, Seigneur, de vraiment être ton appui. Seigneur, d'être ton appui pour nous et Seigneur, de venir nous convaincre que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, viens nous convaincre aussi de pécher pour pouvoir aussi demander pardon et avancer devant toi, Seigneur. Mais on sait, comme ce que racontait Élie, on sait que quand tu nous pardonnes, on peut être dans la joie de nouveau parce que tu nous déclares juste à nouveau, Seigneur. Alors sois béni, sois loué pour qui tu es.
Alors, en réponse à ce message, je vous propose de chanter Sola Gratia, par la grâce seule. Et ce chant qui nous rappelle ce que Jésus a fait.